Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
La compagnie de Jésus. Les 10 se séparent selon un plan non dénué d'esprit stratégique. Ils choisissent des cités universitaires en espérant y trouver, d'une part, de jeunes étudiants qui viendraient les rejoindre, d'autre part, des occasions d'aider les âmes tentées par des idées luthériennes. Cette nouvelle dispersion se fait par groupe de 2, à l'exception du trio Ignace, Favre et Laïnès, qui sont appelés à Rome. Ici intervient un problème d'apparence mineure, mais qui va orienter pour toujours le destin des compagnons. Comme ils n'ont pas encore songé sérieusement à la constitution d'une société durable et ne sont pas placés sous l'autorité d'un supérieur permanent, ils se demandent que répondre à ceux qui les interrogeraient sur l'identité de leur groupe. Après avoir prié et délibéré, ils se prononcent à l'unanimité pour le nom de Compagnie de Jésus. Ce choix doit cependant beaucoup à Ignace. Aux yeux des compagnons, selon Polanco, c'est lui qui l'inventa, et il était si imprimé et enfoncé dans son esprit que toutes les raisons du monde, sauf cas de péché, n'auraient pu le contraindre d'en changer. En novembre 1537, avec Favre et Laïnès, Ignace quitte Venise, où, avant de partir, il a dû affronter une fois encore les calomnies. Ses détracteurs ont fait courir le bruit qu'il aurait fui l'Espagne et Paris. L'enquête ecclésiastique le lave de tout soupçon, tenant pour frivoles, vaines et fausses les accusations lancées contre lui. Sur la route de Rome, Ignace éprouve des sentiments de très grande intensité spirituelle. Peut-être ressent-il une certaine angoisse devant son avenir et celui du groupe rassemblé autour de lui. Mais une voix intérieure, impérieuse, le rassure. « Je vous serai propice à Rome. » Le sens de ces mots lui échappe. Il s'en ouvre à ses 2 compagnons. « Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Peut-être serons-nous crucifiés à Rome. » Un jour, tandis qu'il prie dans la chapelle de la Storta, à 16 km de Rome, il est envahi soudain par une certitude. Il sentit un tel changement dans son âme, note l'autobiographie, et il vit si clairement que Dieu le mettait avec le Christ, son Fils, qu'il n'aurait pas l'audace de douter de cela, à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils. Jacques Laïnès ajoute des détails dignes de foi. Dans son expérience d'union mystique à Jésus, Ignace semblait voir le Christ avec la croix et le Père qui disait « Je veux que tu nous serves ». L'événement de la Storta est un tournant définitif dans l'évolution du saint. On a pu comparer ce moment à celui du stigmate de l'Alverne dans la vie de saint François d'Assise. Il aura des répercussions capitales sur la fondation de la Compagnie de Jésus. Ignace est désormais uni intimement au Christ crucifié. Il partage cette grâce, don gratuit du Père, avec ses compagnons. Être compagnon de Jésus, ce sera s'engager sous l'étendard de la croix, dans l'Église, pour le service de Dieu et du prochain. Cette esquisse de programme, dont les termes à l'automne 1537 ne sont pas encore consignés par écrit, est gravé à partir de ce jour dans le cœur de Ignace. Il avait connu jadis l'ivresse de se donner au Christ par les macérations et les exploits de l'austérité. Tout est maintenant dominé par une idée de plus en plus nette. La fondation d'une communauté réunie sous le nom de Jésus, incorporée à l'Église visible et hiérarchique, est vouée à sa mission universelle. Quand il entre à Rome en novembre 1537, Ignace de Loyola n'a cependant pas renoncé au fameux voyage de Jérusalem. À partir de Pâques 1538, toute l'équipe est à nouveau réunie et loge dans une maison prêtée par un bienfaiteur, non loin de l'église de la Trinité des Monts. Les compagnons prêchent régulièrement dans différentes églises de la ville qui comptent à l'époque 50 000 habitants. Parmi leurs auditeurs se glissent des clercs espagnols aux intentions hostiles, partisans du moine Augustin Mainardi, auteur de sermons à saveur hérétique. Les compagnons l'ont prié de se rétracter, ce qu'il a refusé. Désormais, ce sont eux qui deviennent la cible des disciples de Mainardi. Et le scénario habituel se renouvelle. Ignace et ses amis sont traités d'hérétiques dissimulés. Mais cette fois, ça n'est trop. L'accusation ne compromet pas seulement la réputation de Ignace, elle salit tout le groupe. Et surtout, elle menace dangereusement le projet de fondation d'un ordre religieux qui se profile à l'horizon. Alors, Ignace frappe un grand coup. Tandis que ses compagnons envoient partout des lettres pour recueillir des témoignages sur leur pureté de vie et de doctrine, il s'arrange lui-même pour rencontrer le pape en personne et en tête-à-tête. L'entretien a lieu à Frascati. Ignace expose devant Paul III son itinéraire, ses procès avec l'Inquisition, ses intentions, son désir d'aller à Jérusalem. Il supplie sa sainteté d'ordonner un ultime procès. Par chance, durant cet été 1538 et par un providentiel concours de circonstances, se retrouvent réunis à Rome tous ceux qui eurent à l'examiner dans le passé, en Espagne, à Paris et à Venise. Leurs témoignages concordent. Tous reconnaissent l'innocence de Ignace et des compagnons. La sentence absolutoire est rendue le 18 novembre 1538. Ignace en fera parvenir l'une des nombreuses copies à Loyola. Entre-temps, le délai fixé pour le pèlerinage en Terre Sainte est largement dépassé, puisqu'il ne reste pas d'autre solution, comme il l'avait décidé par vœu, les compagnons vont s'offrir au pape. Pierre Favre, dans une lettre datée du 23 novembre, en décrit non les circonstances, mais le contenu. D'une simplicité presque désarmante, lorsqu'on songe que ces hommes se donnent sans réserve à un pape qui n'a pas donné, du moins au début de son pontificat, les signes évidents de vouloir réformer une curie romaine qui en avait pourtant grand besoin. En 1534, Paul III avait élevé à la pourpre cardinalis deux de ses neveux. Le plus âgé avait 17 ans, le second 14. Heureusement, il prendra plus tard des initiatives moins contestables. « Quoi qu'il en soit, écrit Pierre Favre, citation, « Nous avons mis nos personnes à la disposition du souverain pontife, en sa qualité de maître de toute la moisson du Christ. En nous offrant ainsi, nous lui avons fait connaître de façon très claire que nous étions prêts à exécuter toutes les décisions que lui-même, dans le Christ, pourrait prendre à notre sujet. Si nous sommes soumis de la sorte au jugement et à la volonté du pape, c'est que nous le savons mieux informé de ce qui peut être avantageux à l'ensemble de la chrétienté. » Fin de citation. À l'heure de cette offrande, Ignace n'a pas encore célébré sa première messe. Il a voulu en différer la date, dans l'espoir de vivre cette joie à Bethléem. Puisque son désir, il le sait désormais, ne se réalisera pas, il choisit pour sa première messe la nuit de Noël 1538, qu'il célèbre sur l'autel de la crèche dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Mais d'autres préoccupations l'attendent déjà. La réputation des 10 compagnons est parvenue jusqu'au roi du Portugal, qui en revendique quelques-uns pour les Indes. L'ambassadeur de Charles Quint auprès du Saint-Siège en voudrait d'autres en Amérique. Les compagnons pressentent qu'ils vont être séparés par des missions qui s'étendent d'emblée aux frontières du monde. Que deviendra leur amitié? Qui pourra sauvegarder leur unité? En pratique, cette question revient à un problème essentiel. Doivent-ils créer un ordre religieux? Pour ces hommes liés par une libre communion d'esprit et de projet, la décision est cruciale. Il leur faudra plusieurs mois de délibération, de mars à juin 1539, avant de parvenir à de claires décisions.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.